Merci de la confiance que vous me faites en étant là pour écouter ce que je vais dire. Merci aussi pour les choses que tu as partagées tout à l'heure aussi, Marco, par rapport aux témoignages de la fidélité de Dieu dans les situations que vous avez connues en vacances. Et puis, ces témoignages, je me souviens d'avoir entendu des témoignages parfois vraiment très impressionnants de choses que Dieu a faites dans la vie des gens, et j'en ai entendu maintenant depuis pas mal d'années. Et parfois, enfin, je me suis émerveillé, et parfois je me suis demandé, mais tiens, aujourd'hui, les personnes qui ont vécu ces choses-là, où est-ce qu'elles en sont? Est-ce qu'elles sont toujours dans la course? Est-ce qu'elles tiennent bon aujourd'hui encore? Après toutes ces bonnes choses, mais peut-être que c'est des choses extraordinaires, et ensuite après ça s'est un peu calmé, ça s'est tassé, et puis c'était un peu plus banal comme existence. Est-ce qu'elles sont toujours dans la course? Je l'espère. Et parce que il s'agit de rester dans la course, il s'agit de tenir dans la durée, et c'est ce que je nous souhaite à tous. Et c'est le thème que je vais aborder ce matin, à ma manière, comment tenir dans la durée? Comment garder aussi, si vous voulez, quelque chose du feu du premier amour? Alors on se pose la question, tenir dans la durée dans d'autres circonstances, je ne sais pas si professionnellement vous êtes dans un métier ou dans un emploi qui n'est pas génial, génial, est-ce qu'il faut tenir, est-ce qu'il faut arrêter, est-ce qu'il faut changer? Mais on se pose aussi la question dans la vie du couple, où là aussi, on a fait des promesses solennelles en invitant tous les amis, la famille, pour promettre une fidélité jusqu'à la mort. Il faut tenir parfois dans des moments qui ne sont pas faciles. Et puis avec Dieu. Hein? Ici, il ne s'agit pas seulement il s'agit pas que de mon épouse. Merci Seigneur pour mon épouse, mais de ma relation à Dieu, au Dieu trois fois saint, au Dieu Père, au Dieu Fils, au Dieu Saint-Esprit. Car même avec le Seigneur, il y a parfois des passages avides, des temps de sécheresse, des traversées de désert, où on a l'impression qu'il ne se passe plus rien. Alors, lors d'un passage à vide, une chose qu'on pourrait se demander, c'est peut-être bien comprendre à quel stade on en était avec le Seigneur quand tout allait bien, quand on se sentait choyé, aimé, pouponné. Vous vous souvenez du message d'Alain Pilecki, il y a quelques semaines, qui s'appelait De la Lolette au Beefsteak. Ça fait toute une progression, hein, qui nous a dépeinte. Et puis, il y a des moments, après la conversion, où on cesse d'être pouponné. Il faut grandir, il faut se passer des langes, apprendre la propreté pour le petit enfant, apprendre à marcher et à se relever quand on tombe, parce qu'on tombe. Et c'est pour le petit enfant, c'est un apprentissage qui n'est pas facile. Il y a des larmes, mais c'est un passage nécessaire pour parvenir à l'état d'adulte. Et je pense que personne n'a envie de rester au stade de bébé spirituel. Mais au quotidien, on peut se sentir en panne quand je me retrouve seul, quand il s'est rien passé de fort depuis longtemps, dans mes moments de prière, de recherche de la présence de Dieu, quand j'ai l'impression que le Seigneur ne s'intéresse plus à moi, c'est difficile, c'est une épreuve. Je ne me sens pas soutenu par les autres, ça repose sur moi, c'est lourd, je me sens seul, je me culpabilise peut-être aussi par rapport à cette situation, parce que peut-être que c'est moi qui en suis responsable, allez savoir. Mais c'est. Vous me direz, mais hey, il y a l'Église. on est là, on va te soutenir, et vous êtes là ce matin. Alors, oui, et ça, c'est extrêmement précieux. C'est extrêmement précieux. Mais on peut aussi avoir l'impression que l'Église passe un moment un peu désertique et que les bonnes choses se passent ailleurs. J'entends dire, ouais, tu sais, dans cette Église, il se passe ceci et ça, puis il y a une présence de l'Esprit qui est tellement forte, et puis la louange, ils sont 15 pour faire la louange, etc. Oui, puis ben, ce matin, merci Patrick, je ne suis pas venu parce que je préparais mon message, mais voilà, on peut avoir parfois se dire, mais on pourrait aller là où il se passe quelque chose, where the action is, où Dieu est vraiment présent, mais je crois que Dieu est présent chez nous aussi, hein. Et quand j'ai l'impression de m'ennuyer là où je suis dans quelle disposition ? Est-ce que je suis dans la disposition de l'enfant de Dieu qui est conduit par son père, ou celle du consommateur aussi ? Parce qu'on peut être consommateur chrétien, du consommateur qui veut plus d'émotions, plus de plaisir, plus de jouissance, même spirituelle. Il y a des moments où on aimerait être transporté, mis hors de soi, vivre quelque chose de très fort, on veut s'éclater. Et ça arrive en Église, ça arrive dans certains moments de louange très forts, ça arrive dans des moments où la présence de l'Esprit est très forte. Et mais après, on voudrait reproduire l'expérience, renouveler cette émotion, en prendre en quelque sorte une nouvelle dose. Dans un sens, c'est normal. Hein, c'est important de se retrouver avec d'autres, avec une collectivité, une foule, de communier, d'être avec les gens dans des moments comme ça, des gens qui ont la même foi, le même Dieu. C'est très fort. Mais les émotions ne suffisent pas. Les émotions ne sont même pas un signe sûr de la présence de Dieu. On peut vivre des émotions très fortes en dehors de l'Église. Je ne sais pas, aller au match, il se passe des choses. Aller au Paléo, un festival de musique, il se passe des choses. J'en reviens comment ? Ah, c'était super, hein. J'ai admiré la performance de celui qui a mis les buts, ou de tel joueur, du musicien. Ça m'a fait du bien. Puis quelle ambiance ! On se sentait plus soi-même au milieu de cette foule. Tous ensemble, on communiait dans la même quoi ? Je pense à ce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un intellectuel assez célèbre en Suisse, roman Denis de Rougemont, qui est décédé il y a quelques années, qui racontait qu'il a vécu quelque temps en Allemagne, avant la Deuxième Guerre mondiale, et il est allé un jour assister à une cérémonie nazie pour voir comment c'était. Et lui, il était tout sauf nazi, hein, mais comme journaliste en quelque sorte, pour témoigner de ce qui se passait, puis comprendre. Et au moment donné, il y a eu un salut nazi et il a senti son bras se lever tout seul. Et il a vraiment dû se retenir. Il était le seul à ne pas faire le salut à ce moment-là. Et il y avait des centaines ou des milliers de personnes dans cette salle. La puissance de la foule, ça peut être très, très fort. Et donc les émotions, oui, mais lesquelles ? Vous savez, on est dans un monde, dans une société qui nous pousse à rechercher ces choses, qui pousse à la consommation, bien sûr, à des comportements parfois addictifs aussi, c'est fort aussi, parce que vous avez déjà remarqué, on a tous dans nos poches, enfin je les pense souvent sur moi, mais mon téléphone, mais enfin il n'est pas loin, ces petites boîtes noires, hein, c'est prêt à nous fournir une petite dose d'excitation, de plaisir. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez mis un message, est-ce qu'il a regardé ? Est-ce que j'ai une réponse ? Est-ce qu'il y a des likes ? Est-ce que des choses comme ça ? Puis regardez aussi comment les gens se servent de leur téléphone. C'est sidérant. Dans des parcs, vous voyez des mamans promener leur enfant comme ça, les yeux fixés sur le téléphone. Et pas que des... Puis les autres, et puis quand vous prenez le train, sur le quai, dans le train, que font les gens, hein? Que faites-vous? Il y a, on cherche des petites récompenses tout le temps, et puis c'est fait pour ça. Hein? Tout est prévu pour vous entraîner dans ce circuit de la récompense. Mais Paul nous demande de ne pas nous conformer au monde présent. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Romains 12, 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas se laisser configurer par le monde. Pas ne pas accepter d'être mis dans ce moule-là, de prendre la forme du monde. Se laisser transformer, c'est littéralement se laisser métamorphoser. Être dans la situation où on se laisse changer de forme. Et comment ? Par le renouvellement de l'intelligence, par le renouvellement de notre faculté de penser. Il nous est demandé de penser autrement que la pensée du monde. Think different, c'est un slogan il y a quelques années, mais pas pour les églises. C'est une conversion qui nous est demandée. Puis une conversion, c'est quand on change de direction, au lieu de se laisser fasciner par le monde, eh bien, se tourner en direction de Dieu. Et notre intelligence fonctionne mal quand elle le fait selon le monde. Elle a besoin de se convertir, de changer de direction. Et au lieu de se préoccuper de ce qui est bien, de ce qui est agréable, de ce qui est parfait selon l'esprit du monde, on va se préoccuper de ce qui est bien, de ce qui est agréable, de ce qui est parfait pour Dieu. Et pourquoi on fait ça? Pour répondre à la bonté de Dieu envers nous. Dieu qui nous sauve. Dieu qui a montré sa bonté pour nous, dit Romains 12, 1, le verset juste avant, hein, qui dit que Dieu nous a fait miséricorde. Et là, Paul nous exhorte, avec des termes qui sont quand même forts, à nous offrir nous-mêmes en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera là votre culte spirituel, ou votre culte raisonnable, les traductions, on va voir, sont pas toujours les mêmes. Nous offrir nous-mêmes à Dieu en sacrifice vivant, saint et agréable. Un culte spirituel, ça veut dire quoi un culte spirituel? C'est vague. Un culte, le terme qu'on traduit par culte, ça signifie, c'est un service accompli volontairement. Ce n'est pas comme le service militaire où on doit y aller. Hein. Là, c'est un culte qu'on a choisi. C'est un service qu'on a choisi volontairement. Et puis, spirituel, en grec, c'est logikain. Logique. Un service logique. Ah bon ? Logique, c'est ce qui correspond au logos. Puis logos, ça veut dire deux choses. C'est la raison. Un culte raisonnable se traduit juste. Mais logos, c'est aussi la parole. Un culte suivant la parole de Dieu. Alors, je pense qu'il est raisonnable de conclure qu'il s'agit d'un culte suivant la parole de Dieu. Et ce service logique, raisonnable, conforme à la parole, ben, la parole, elle dit, offrez-vous vous-même comme un sacrifice vivant. En faisant ce qui plaît à Dieu. C'est ça, faire ce qui plaît à Dieu. Et dans cette perspective toute différente, nous qui sommes quand même très fort, beaucoup plus influencés que nous le voudrions par l'esprit du monde, soyons clairs, c'est fort. Dans cette perspective toute différente, on ne peut pas s'attendre à ce que tout roule comme dans le monde, juste en mieux. Et là, moi, je me rends compte que quand je suis, qu'après ma conversion, en partie à cause de ce que j'entendais prêcher, en partie aussi à cause de mes propres désirs ou convoitises, je me dis, ah ben mais c'est cool être chrétien. En fait, c'est comme avant, avec un truc en plus. C'est pas comme avant, c'est différent. C'est différent. C'est pas comme l'automobiliste qui dit, ah ben tiens, dans ma voiture, je vais installer un système de navigation, ce sera mieux. Et ce serait le résultat de la conversion. Non. C'est différent. Hein. Nous ne sommes plus du monde. Nous ne sommes plus du monde. Nous sommes dedans. Nous avons été rachetés. Nous appartenons maintenant au royaume de Dieu. Et les citoyens du royaume de Dieu sont actuellement mélangés aux citoyens du royaume du monde, comme le bon grain avec l'ivraie. On est mélangés. On est avec eux. Et pour des raisons qu'on va voir. Hein. Mais nous, nous avons été rachetés par Dieu, nous avons le salut, nous avons le pardon de nos péchés, nous avons acquis en quelque sorte cette perle de grand prix pour laquelle il vaut la peine de laisser tout le reste. Mais c'est un chemin exigeant, il faut le reconnaître. Difficile à cause de la pression du monde, et un chemin qui peut s'avérer parfois désertique. Regardez ce qui s'est passé pour Israël dans l'Ancien Testament, dans le désert. Les gens avaient la manne, mais ils disaient « Ah, mais les oignons d'Égypte !» Nous nous souvenons des poissons que nous mangeions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des gousses d'ail. Maintenant, notre gosier est desséché, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Franchement, je les comprends qu'ils aient pu réagir comme ça, mais c'est difficile. Nous désirons avant tout plaire à Dieu, dit Paul dans 2 Corinthiens 5:9. Vous avez lu ça il n'y a pas longtemps. Nous désirons avant tout plaire à Dieu en demeurant dans notre corps, cette tente vouée à la destruction, alors que nous aspirons à être revêtus de notre corps céleste. Nous voulons répondre à l'amour du Christ. 2 Corinthiens 5, 15, ça aussi on a lu il n'y a pas longtemps. L'amour du Christ qui est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Pour eux. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine, et si nous avons connu Christ de cette manière purement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si nous sommes en Christ, nous sommes nés de nouveau, une nouvelle créature. Le monde ancien est passé. Voici qu'une réalité nouvelle est là. Mais le monde continue de nous coller à la peau. Il faut se battre. Et c'est un combat que nous avons à mener, c'est un combat spirituel. Et comme combat spirituel, il déplaît complètement au prince de ce monde qui, lui, cherche à nous mettre dans son moule. Et pour ce combat, il faut être équipé correctement. On ne va pas se battre en tenue de plage. Il y a une tenue de combat, vous la connaissez, hein, on l'a souvent entendue répéter, vous la connaissez peut-être même par cœur, parce qu'elle est décrite dans Éphésiens 6. Et c'est quoi les armes de Dieu ? La vérité, la droiture ou la justice, le zèle pour annoncer l'Évangile, la foi, le salut, la parole de Dieu et la prière. Alors la vérité, ceinture, la droiture, la justice, la cuirasse, les chaussures, le zèle pour annoncer l'Évangile, la foi, c'est le bouclier, le salut, c'est le casque, la parole de Dieu, l'épée. C'est la seule arme offensive, au fond, dans cette description. Tout le reste est pour la protection. Sauf peut-être le zèle des chaussures. Là, ça fait avancer. Et puis, il est ajouté la prière en toutes circonstances par l'Esprit pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Et à quoi elles servent, les armes de Dieu ? Eh bien, elles nous aident, elles nous rendent capables de tenir bon, face aux manœuvres du diable. Elles servent à lutter contre le monde des ténèbres, les esprits du mal, dans ce sens-là. Et pourquoi ? Pour pouvoir résister, pour pouvoir rester debout. Rester debout. Il n'est même pas question de vaincre, mais déjà simplement de rester debout. Mais dans tout ça, nous ne sommes pas juste livrés à nous-mêmes, parce que Jésus a prié le Père pour nous. Jean 17, 14 à 17. « Pour que nous soyons préservés du mal, je lis. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mauvais. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole et la vérité. » On est là, dans le monde, on n'est pas en vacances. Le chrétien n'est pas en vacances dans le monde. Il en partage les problèmes, les vicissitudes. On a une certaine solidarité parce qu'on vit ici, on travaille, on doit côtoyer des gens. On a une solidarité humaine aussi avec les gens. Et puis, ces gens qui sont du monde, un jour, nous l'espérons, ils vont changer de bord, ils vont être touchés par la grâce, ils vont se convertir. Ce ne sont pas nos ennemis. Nous sommes là pour miner, dynamiter l'œuvre du malin par la puissance de l'Évangile, la parole de Dieu. Nous sommes fondamentalement des ambassadeurs du royaume de Dieu, ici. On a été recrutés sur place, on était déjà là, il est venu nous dire ah, « Tiens, toi, tu... Voilà, t'es racheté, t'as changé d'identité, tu es né de nouveau, tu fais partie du royaume de Dieu, t'es ambassadeur. » Ce n'est pas une position extrêmement facile. Quand je réfléchissais à ça, Mme Keller-Souter et M. Parmelin étaient en route pour Washington pour essayer de plaider une baisse des droits de douane que le président américain a imposé à la Suisse. Je disais, mais ils doivent se sentir comment ? Dans de tout petits souliers, cette démarche humiliante, difficile, et qui n'a, jusqu'à présent, eu aucun résultat. Mais nous sommes des ambassadeurs, pas de la prospérité suisse, mais du royaume de Dieu. Et nous sommes appelés à tenir dans la durée. Comment ? Alors, je vous propose, pour terminer, quelques pistes ou quelques outils pour vous aider, nous aider, m'aider moi-même à tenir dans la durée, à remporter la course, comme dit aussi Paul. Premièrement, je crois qu'il faut comprendre et il faut accepter que le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le monde. Les lois du royaume, pour moi, c'est le sermon sur la montagne. Tellement décalé par rapport au fonctionnement du monde. Les béatitudes, mais c'est le contraire absolu du bonheur selon le monde. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Ceux qui font preuve de bonté. Ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui procurent la paix. Ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous. Mais aux yeux du monde, c'est des losers. C'est l'horreur. C'est le malheur absolu. Jésus dit, heureux, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes, c'était d'autres ambassadeurs, je pense, qui vous ont précédé. Les épreuves, c'est clair, ça fait partie du programme, enfin de la vie chrétienne, elles peuvent durer longtemps. Vous vous souvenez, Rebecca Rottenbüller a témoigné il n'y a pas longtemps de cette maladie qu'il a tenue pendant 10 ans. 10 ans. Entre l'âge de 35 et l'âge de 45 ans. Et le Seigneur l'a guéri. Au bout de 10 ans. C'est long. Mais je parlais d'Israël en Égypte. Ils sont arrivés en Égypte parce qu'il y avait une famine en Israël. La famille de Jacob a été accueillie grâce à Joseph, etc., en Égypte. Et ils ont pu vivre beaucoup mieux. Et ensuite, ils sont restés là. Ben, ils ont été dans le monde égyptien. Ils ont grandi, ils ont dû commencer de travailler, ils sont devenus esclaves. Nous, on est plutôt salariés qu'esclaves, mais enfin, ils ont été... Et puis, au bout d'un moment, l'esclavage est devenu extrêmement dur. Et Dieu s'est souvenu d'eux. Après 400 ans. Ça fait pas mal de générations. Et là, Moïse, il est appelé. Fais sortir mon peuple. Mais Moïse, qui n'a pas bien compris tout de suite en quoi consistait l'appel, il dit, ah ben, il voit un Égyptien menacer un Israélite, il tue l'Égyptien. Mais il faudra encore 40 ans de formation avant qu'il puisse effectivement entrer dans l'appel de Dieu. 40 ans. Et Israël va encore errer dans le désert pendant 40 ans. Et découvrir que cette terre promise, purée, on doit la conquérir. C'est pas juste un village de vacances dans lequel on arrive et puis tout va bien. Non, il faut encore se battre pour y entrer. Et je crois que quand Paul nous dit « mais travaillez à votre salut », c'est qu'on doit aussi se battre pour entrer vraiment complètement dans l'appel de Dieu. C'est la conversion, le pardon qu'on reçoit, c'est la porte d'entrée. Et ensuite, il y a du chemin à faire. Notre terre promise, elle est aussi à conquérir. Donc, premier élément, comprendre que le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le monde. Deuxièmement, ne pas se conformer au monde présent, ça, on l'a vu tout à l'heure, mais se laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. Troisièmement, apprendre cette chose magnifique qu'est la patience et la persévérance. Et quand on lit Jacques, il n'est pas moins raide que Paul. Hein. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Apprendre la patience est la persévérance. Et quatrièmement, ça je reprends aussi du témoignage de Rebecca, ne pas demander pourquoi ça m'arrive, mais comment traverser l'épreuve, comment passer dans cette épreuve et y passer victorieusement, comment la supporter. Et peut-être qu'on ne saura jamais pourquoi il y a cette épreuve. Job ne savait pas ce qui se passait, ne savait pas pourquoi il était pareillement éprouvé, il ne savait pas qu'il y avait une espèce de négociation entre Dieu et Satan qui essayait de dire à Dieu, ouais, mais Job, je le fais tomber quand je veux. Job a tenu bon, mais il n'avait pas l'explication. Lui, il s'est demandé comment il pouvait tenir. Alors, vous voyez, Dieu nous a adoptés, nous sommes ses fils, nous sommes ses filles, et si nous sommes les ambassadeurs du royaume, nous sommes ses serviteurs, ce qui veut dire que ce n'est pas Dieu qui est à notre service, c'est plutôt le contraire. Et Jésus n'a jamais dit que ce serait facile, on entre dans le royaume de Dieu par une porte étroite et un chemin resserré. Entrer par la porte étroite, en effet large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Alors, les paroles de Jésus sont pas moins radicales que celles de Paul ou de Jacques, mais c'est les paroles de Jésus, notre Seigneur. Amen. Nous avons trouvé le chemin qui mène à la vie. Nous avons, je crois, pu passer par cette porte étroite. Nous sommes sur ce chemin resserré. Et ne le quittons pas. Ne le quittons sous aucun prétexte. Prenons la résolution de ne le quitter sous aucun prétexte. Vous vous souvenez, quand Anita Pierce est venue la dernière fois, elle était là, je crois qu'elle sautait sur place pour lui dire « Never give up !»« N'abandonnez jamais !» Et puis elle disait « Répétez après moi !» N'abandonnez jamais. Vous pouvez le faire. N'abandonnez jamais. Amen. Soyez bénis. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu nous as rachetés, parce que tu as fait de nous tes fils et tes filles, parce que tu nous veux dans ton royaume, parce que tu as pour nous des projets extraordinaire. Et c'est vrai que, Seigneur, c'est une vie qui représente aussi une lutte, un combat, mais tu nous donnes les moyens de le mener. Tu nous donnes ton amour, tu nous donnes ta présence et une espérance magnifique. Parce que notre but, c'est pas de réussir notre vie dans ce monde. Notre but, c'est de rejoindre ton royaume et ta présence. Amen.